Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture à 11h du lundi au vendredi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon et Antoine Dulster, mais aussi Mélanie Chalandon et Margot Leridon, et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu, et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Ça y est, on les retrouve. On aura dans quelques instants Marc Sémo qui sera avec nous. S'il est désormais clair que Joe Biden sera bien le président des États-Unis, en revanche, il n'y a pas de doute non plus sur le fait que l'actuel locataire de la Maison Blanche compte bien profiter de ces dernières semaines pour laisser un legs à son successeur, et en particulier dans le domaine de la politique étrangère. En ligne de mire, le Moyen-Orient. Donald Trump prévoit d'imprimer sa marque plus que jamais de l'Irak à l'Afghanistan, où il accélère le retrait des troupes, en passant par l'Iran, à propos duquel il aurait sondé ses conseillers sur l'éventualité d'une frappe sur un site nucléaire, en croit en tout cas les informations du New York Times en début de semaine. Alors à quoi faut-il s'attendre du côté américain? Jusqu'où Trump pourrait-il chercher à agir en matière de politique extérieure? Et quelles conséquences possibles pour le Moyen-Orient? Trump au Moyen-Orient, opération sabotage, c'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure avec Myriam Benrad et Michel Duclos qui seront nos invités. Mais avant de les retrouver, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin se trouve en ce moment en Éthiopie. Bonjour Noé Ochebaudin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Addis Abeba. Vous êtes journaliste indépendant et vous travaillez notamment pour RFI, Le Monde et Radio France. Alors je vais faire peut-être quelques éléments de cadrage, rappeler quelques éléments. Le 4 novembre dernier, le Front de Libération du Peuple du Tigré lançait une attaque contre l'armée régulière éthiopienne. Depuis, les combats se poursuivent sans que l'on en connaisse le bilan exact, tant la région est coupée du monde et aucun règlement ne semble envisageable à court terme, puisque le Premier ministre Abiy Ahmed exige un désarmement total du groupe d'insurgés avant d'entamer une quelconque négociation. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe sur place et jusqu'où pourraient aller les combats. Alors je précise, Noé Ochebaudin, que vous étiez la semaine dernière dans le Tigré, à Dancha, d'où est parti le conflit, mais que depuis, vous avez dû quitter la zone. Cette semaine, le Premier ministre a donc annoncé que le conflit arrivait dans sa phase finale, je reprends sa formule, et que les forces gouvernementales étaient sur le point de reprendre la capitale de la province, Mekele, qui est un bastion de ce front de libération du peuple de Tigré. C'est le cas, le conflit est sur le point de s'arrêter, avec à la clé une victoire du gouvernement central.
Alors à la fois oui et non, parce qu'évidemment c'est avant tout une guerre de communication qui a eu lieu ici en Éthiopie, mais c'est vrai que la tendance des derniers jours, c'est une poussée voilà des forces fédérales à l'intérieur du Tigré, ce qui peut être une illusion d'optique selon certains diplomates contactés ici à Addis Abeba, parce que finalement eux disent que les conquêtes qui ont été faites ces derniers jours, hein, les troupes fédérales sont à environ 150-120 kilomètres de la capitale provinciale du Tigré, Mekele. Le reste du terrain à franchir pour les troupes fédérales est extrêmement montagneux. Beaucoup utilisent souvent la comparaison en disant que le Tigré est l'Afghanistan de l'Éthiopie. Donc voilà, les combats pourraient encore durer beaucoup de temps. Et on a très peu d'infos sur l'avancée exacte des combats. Effectivement, parce que comme vous l'avez dit, le Tigré est coupé du monde depuis 16 jours maintenant. Plus de télécommunications et un accès très restreint, aussi bien d'ailleurs pour les humanitaires que pour les journalistes.
Oui, et que par ailleurs, on a là une véritable guerre de l'information, parce que si on écoute le gouvernement central, on nous dit que tout va bien, l'armée gagne sur tous les fronts, nous dit très récemment le chef de l'armée éthiopienne, mais si on regarde du côté du front de libération du peuple du Tigré, là aussi, on revendique des victoires très importantes. On est en pleine guerre de l'information. Qu'est-ce qu'on sait du nombre de morts et de blessés concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on arrive à avoir comme information fiable?
Alors on en a très très peu. Celles qui nous parviennent plutôt, elles sont de l'autre côté de la frontière soudanaise, où plus de 30 000 réfugiés éthiopiens se sont maintenant réfugiés. Les bilans des combats sont très très compliqués à avoir. Les bilans officiels font part de plus de 500 morts du côté des troupes du TPLF, donc du Front de Libération du Peuple du Tigré. Mais c'est sûrement très très loin de la réalité. Des sources diplomatiques ici me faisaient part aussi il y a déjà 10 jours de cela, on comptait les morts en milliers, voire dizaines de milliers. C'est une guerre de très très grande ampleur. Ce n'est pas une simple opération de maintien de la paix comme veut veut le faire croire le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Lui a tout intérêt à dire cela, à ne pas internationaliser le conflit. Le fait est que le conflit a déjà commencé à s'internationaliser. Le simple fait d'avoir plus de 30 000 Éthiopiens qui fuient au Soudan et aussi des tirs de roquettes, je pense qu'on l'évoquera un peu plus tard, sur Asmara, la capitale érythréenne.
Oui, on va y revenir justement, mais qu'on ait un tout petit peu une idée, les forces en présence de part et d'autre, ça représente quoi ? J'ai lu des chiffres absolument astronomiques. Vous pouvez nous donner quelques indications des évaluations des forces en présence ?
Oui, alors c'est compliqué d'avoir des vraies informations précises, mais globalement, on peut dire que les forces tigréennes, qui sont à la fois des milices, donc des civils, des milices et à la fois des forces spéciales, certains observateurs assurent que le Tigré pourrait lever une armée de plus de 200 000 hommes. Donc ça, c'est seulement les forces purement tigréennes, mais il ne faut pas oublier que l'armée éthiopienne, qui représente environ 100 à 120 000 soldats, la moitié de ses effectifs et de l'artillerie de l'armée éthiopienne était présente au Tigré au début du conflit. Donc il y a environ 40 à 50 000 soldats éthiopiens qui étaient au Tigré au début du conflit. Et là aussi, on se retrouve sur une guerre de l'information. Le TPLF assure que la grande majorité de ces soldats ont fait défection du côté tigréen. Et là, c'est là que le manque d'information est crucial, car on ne sait pas vraiment cette partie de l'armée. On ne sait pas si elle a effectivement rejoint le camp tigréen ou si elle est restée loyale au gouvernement d'Addis Abeba. Et du côté du gouvernement d'Addis Abeba, on peut compter évidemment sur le reste de l'armée éthiopienne, donc plus de 50 000 hommes, et aussi sur beaucoup de milices Amara. La province Amara, c'est cette province qui borde le Tigré au sud. Beaucoup de civils qui se sont engagés pour combattre le Tigré. Donc les forces en présence, on n'a pas d'idée exacte, mais on estime qu'il y a à peu près... les forces tigréennes seraient sûrement un peu moins nombreuses que les forces fédérales, mais aussi bien armées et aussi bien préparées.
Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de craintes que le conflit ne s'étende, et en particulier ne s'étende à l'Érythrée. Quels sont les signes qui aujourd'hui le laissent penser et jusqu'où il vous semble que ce conflit pourrait s'étendre géographiquement ?
Alors effectivement, l'Érythrée, c'est le grand point d'interrogation depuis deux semaines ici en Éthiopie, car c'est un secret pour personne. Le président érythréen, Isaias Afwerki, est un grand allié d'Abiy Ahmed. C'est justement pour cela qu'Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, avait reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour cet accord de paix avec l'Érythrée. Certains experts ici affirment que justement cet accord de paix était en premier lieu fait justement pour contrecarrer le TPLF, donc le parti tigréen. Et en effet, on peut dire que depuis cet accord de paix en 2018, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de choses qui se sont matérialisées sur le terrain. Les postes frontières se sont même refermés depuis. L'Érythrée est quelque part entrée malgré elle dans ce conflit, car le Tigré a lancé des roquettes sur Asmara, la capitale. Mais le TPLF assurait depuis plusieurs jours que l'Érythrée prenait part au combat. Des sources font part justement de forces spéciales érythréennes aperçues dans la ville d'Oumera, une ville frontalière avec l'Érythrée. Et le gouvernement ici, le gouvernement éthiopien Addis Abeba, a confirmé que des troupes fédérales s'étaient repliées sur le territoire érythréen avant de pouvoir contre-attaquer en territoire éthiopien. Donc on voit bien que l'Érythrée est quand même fait partie de ce conflit sans savoir exactement quel rôle elle joue.
Mais est-ce que ce qu'il y a à craindre, c'est seulement, j'allais dire, effectivement, la participation des forces loyalistes érythréennes auprès de l'armée régulière et donc d'Abiy Ahmed ? Ou est-ce que c'est plus grave que ça ? C'est-à-dire, il faut quand même avoir conscience qu'on a aussi, du côté de l'Érythrée, 5 millions de Tigréens qui potentiellement pourraient se mobiliser auprès, justement, du front de libération pour le Tigré. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut craindre ?
Alors c'est une possibilité, effectivement c'est une possibilité, c'est ce qui peut arriver. Il faut rappeler effectivement qu'il y a plus de 100 000 Érythréens qui se trouvent actuellement au Tigré, qui ont fui ce service militaire qui commence à l'âge de 20 ans et qui finit, on ne sait jamais vraiment quand il finit. Donc effectivement, le TPLF pourrait jouer sur cette corde, tenter de déstabiliser l'Érythrée en utilisant cette population qui parfois peut s'opposer à la au régime autoritaire d'Isaias Afwerki. C'est une possibilité en effet.
Noé Auchet-Baudin, il y a un autre pays peut-être de la région qui pourrait être concerné par ce conflit, c'est la Somalie. On a déjà des soldats éthiopiens qui s'y trouvaient dans le cadre de missions de maintien de la paix, qui sont partis et qui sont partis justement pour mener cette guerre dans le Tigré. Les conséquences possibles pour la Somalie, quelles sont-elles ?
Ça peut effectivement créer une grande instabilité en Somalie, qui est un pays qui est déjà touché par de nombreuses attaques et par les Chebabs qui profiteraient du vide laissé par ces troupes éthiopiennes qui partiraient au Tigré. Alors il y a déjà eu environ 3000 soldats éthiopiens stationnés en Somalie qui sont partis pour le Tigré. On a appris ces derniers jours qu'il y a aussi des officiers qui ont été mis à pied. Pourquoi ils ont été mis à pied ? Parce qu'ils font partie de l'ethnie tigréenne justement et qu'on leur a demandé de ne plus se présenter dans les casernes en Somalie. Donc effectivement, pour la Somalie, ça peut être un facteur d'instabilité assez fort. L'avenir nous le dira effectivement si des attaques sont perpétrées dans les jours qui suivent.
Noé Auchet-Baudin, revenons sur la scène politique éthiopienne si vous voulez bien. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette décision du Premier ministre Abiy Ahmed de repousser les élections législatives pour cause de Covid. Est-ce que cette décision est seulement liée à la situation sanitaire, comme il le dit, ou il y a peut-être d'autres raisons moins avouables ?
Alors ça, c'est de la spéculation. Effectivement, il y a peut-être d'autres raisons moins avouables. Il suffit d'ailleurs de rembobiner un peu le fil en Éthiopie depuis quelques mois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de violences interethniques, et y compris fin juin, début juillet, un gros mouvement de contestation qui a débouché d'ailleurs sur 2 semaines de blackout complet d'internet et des télécommunications. Justement, c'est l'ethnie Oromo, donc Abiy Ahmed lui fait partie de l'ethnie Oromo, qui est l'ethnie la plus importante en Éthiopie et qui n'avait jamais accédé au pouvoir avant lui. C'est grâce à elle qu'il a accédé au pouvoir, mais c'est aussi ces nationalistes Oromo ont trouvé que finalement Abiy Ahmed ne représentait pas assez bien leurs intérêts. Et donc, on menait des manifestations assez violentes, notamment début juillet. Et ça déstabilise aussi un peu l'assise du pouvoir d'Abiy Ahmed. Donc effectivement, il a utilisé cette raison. Il a invoqué cette raison de l'état sanitaire de l'Éthiopie. Pourtant, il n'y a pas autant de cas qu'en France, par exemple. Ce que le Tigré a, comme vous l'avez dit, refusé et a tenu ses élections législatives dans la province. Donc voilà, il n'y a pas de réponse très claire à ça, mais les élections législatives sont prévues pour juin prochain, donc un an après la date prévue. On verra, l'avenir là aussi nous dira si Abiy Ahmed tient ses élections.
J'entends que les Oromo, donc l'ethnie à laquelle appartient le Premier ministre, qui est très importante hein, démographiquement, c'est à peu près 35-40%, on n'a pas des chiffres très très précis, mais c'est à peu près ça, 35-40% de la population. J'entends qu'elle n'est pas complètement en soutien de son Premier ministre, mais si on regarde du côté des Tigréens, parce que le Front de Libération du Peuple du Tigré accuse ce Premier ministre d'avoir marginalisé la minorité tigréenne, qui est elle à peu près 4-6% de la population. Est-ce que cette accusation est justifiée, sachant que les Tigréens faisaient au départ, à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en avril 2018, faisaient partie de la coalition, et donc, qui était donc une coalition un peu inédite de ce point de vue-là. Est-ce qu'effectivement il a cherché Abiy Ahmed à les exclure du jeu politique ?
Alors, ils faisaient même plus partie que la coalition. Ils étaient à la tête de cette coalition depuis 1991. Et c'est un peu le paradoxe que beaucoup soulignent en Éthiopie, que les Tigréens, qui représentent 5-6% de la population, avaient vraiment la main mise sur le pouvoir politique, et pas que sur le pouvoir politique, aussi sur l'appareil politico-sécuritaire au sens large. Et aussi, d'ailleurs, sur beaucoup de commerces et de grandes entreprises éthiopiennes.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils reprochent à Abiy Ahmed ?
Ils ont, Bah, il reproche de vouloir les exclure justement de tous ces cercles d'affaires, ces cercles politiques, de vouloir les exclure aussi leur influence au sein de l'armée. Et c'est d'ailleurs ce que Abiy Ahmed a fait à son arrivée. Et ça avait été loué d'ailleurs par une partie de la communauté internationale, y compris des grandes ONG comme Amnesty International, qui s'était réjoui que Abiy Ahmed fasse en quelque sorte le ménage de beaucoup d'hommes d'affaires ou d'hommes politiques tigréens qui étaient visés par des enquêtes de corruption, mais qui étaient en quelque sorte protégés lorsque le TPLF était aux affaires.
Est-ce que Noé Ochebaudin, vous avez évoqué tout à l'heure les Amaras, là encore, hein, je le redis, c'est vrai que l'Éthiopie c'est une mosaïque, hein, il y a à peu près 80 ethnies, mais il faut bien avoir en tête qu'on a deux ethnies principales, les Oromo et les Amaras, qui représentent à peu près un tiers, une fois encore les chiffres sont pas très précis, mais un tiers de la population, et puis ensuite on a des ethnies qui représentent démographiquement beaucoup moins, 7%, 5%, etc. Mais quelle est la position aujourd'hui des Amaras? Est-ce qu'ils soutiennent Abiy Ahmed? Est-ce qu'ils pourraient être finalement la clé de cette crise militaire, mais aussi politique? Comment vous voyez les choses?
Alors oui, effectivement, les Amaras, quelque part, c'est la clé, comme vous l'avez dit, de cette crise. Et à la fois, ils ont une position ambivalente. Ambivalente, pourquoi ? Parce que beaucoup de minoritaires amaras font l'objet de massacres ethniques à travers le pays depuis 2 ans, 3 ans. En Amara, il y a aussi eu un coup d'État l'an dernier, avorté par Abiy Ahmed, mais qui a mené à beaucoup d'arrestations de leaders nationalistes Amara, car comme vous l'avez dit, l'Éthiopie, c'est un pays complexe, une mosaïque d'ethnies, avec dans chaque province des franges plus ou moins nationalistes. L'ethno-nationalisme, comme on l'appelle ici en Éthiopie, mais oui, les Amaras sont la clé de ce conflit, notamment par le soutien populaire qu'ils apportent à cette guerre. Ce sont les premiers à soutenir cette guerre, bien plus que les Oromo. Ça se voit notamment par la mobilisation de milices Amara, de civils parfois, et même très jeunes, que j'ai pu voir à Dancha quand je suis allé dans le Tigré, des adolescents qui montent au front, Kalachnikov à la main, pour aller défendre finalement leur province, car c'est... Le conflit est multidimensionnel, c'est un conflit politique, comme on l'a dit. Il y a aussi une dimension ethnique, car les Amaras revendiquent depuis des années et des dizaines d'années certains territoires et tout autour de la frontière entre l'Amara et le Tigré, il y a beaucoup de territoires qui sont revendiqués par les Amaras depuis des années, et quelque part, ils profitent aussi de ce conflit pour récupérer des terres qu'ils pensaient être les leurs.
Toute dernière question, Noé Ochebaudin, parce que on sait qu'il y a plusieurs tentatives de médiation qui ont été lancées. Il y a le président ougandais, Yoweri Museveni, qui visiblement a reçu des représentants du gouvernement et du front de libération du Tigré. Il y a l'Union africaine aussi qui visiblement a engagé une initiative. Je dis visiblement parce que le gouvernement, pour le moment, nie être en train de négocier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a effectivement des négociations? Est-ce qu'il y a une médiation qui est en place? Est-ce qu'on peut en espérer quelque chose?
Alors, ça va être la grande question de ces prochains jours, et finalement ça dépendra de l'avancée militaire ou non des forces fédérales. Pour l'instant, comme vous l'avez dit, Abiy Ahmed résiste à toutes les tentatives de négociation, de médiation. Le cessez-le-feu a été demandé par le pape, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies. Toutes les initiatives ont été refusées. Il y a eu ces voyages effectivement du ministre des Affaires étrangères au Kenya et en Ouganda. On ne sait pas vraiment s'il va y avoir une médiation qui va être acceptée par le camp Abiy. Ça ressemble plutôt à une opération de séduction en Afrique de l'Est de la part du gouvernement. Pour l'instant, il résiste. Il y a des sources qui font part d'une initiative avec le Kenya à partir de la semaine prochaine, mais cela encore, c'est encore un peu flou. Pour l'instant, Abiy Ahmed a répété à de multiples reprises que c'était une simple véritable opération de maintien de l'ordre strictement national, et que tous ceux qui voudraient faire une médiation pouvaient aller voir ailleurs.
Voilà, tout est une question de vocabulaire. Merci infiniment, Noé Hochet-Baudin, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez pour RFI Le Monde et Radio France. On vous avait depuis Addis Abeba. Il y avait quelques marteaux qu'on entendait derrière, et puis des chiens aussi. Mais voilà, c'est le changement, le mouvement, c'est la vie, donc c'est une très bonne chose. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, bonne journée.
Yet now ye met no real sheep at Buddha. Yet now ye met no real sheep at Buddha. Men in ya hayal new yanchit zita. Zotrita yinyal melakuminash. Benefas jawes petanze.
Allez, on va quitter l'Éthiopie, prendre la direction du Moyen-Orient. Trump au Moyen-Orient, opération sabotage, c'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Parce que si Donald Trump n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite, en revanche, il commence à prendre acte et prépare son départ avec quelques décisions qui pourraient bien avoir d'importantes conséquences pour son successeur. On l'a vu en particulier dans le domaine de la politique extérieure.
Our forces... Nos forces en Afghanistan, en 2021, seront de 2500 soldats. Celles d'Irak seront également, au même moment, de 2500.
Voilà, donc après le limogeage la semaine dernière de l'ancien ministre de la Défense, Mark Esper, eh bien son remplaçant, Christopher Miller, annonce le départ, en tout cas d'une partie des soldats américains d'Afghanistan et d'Irak. Une décision peut-être un peu rapide, un peu précipitée, qui laisse craindre un retour en force des groupes extrémistes. Quelles pourraient être les conséquences dans ces pays où la paix est loin d'être de retour? Comment comprendre cette décision de Trump? Est-ce qu'il faut craindre cette opération sabotage au Moyen-Orient? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Michel Duclos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Avec nous également Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
Merci également. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Et puis on retrouve notre partenaire du monde, Marc Semo. Vous êtes avec nous également, toujours bonjour. À distance.
Bonjour.
Bonjour Marc. Alors on savait, on va reprendre nos habitudes hein Marc, hein, on va commencer avec vous. On savait qu'il y avait un risque que Trump utilise ces dernières semaines pour prendre des décisions sur lesquelles il sera très difficile de revenir. Ça se confirme avec cette décision d'accélérer le retrait des troupes en Irak, en Afghanistan, peut-être bientôt même du côté de la Somalie. Il y a également des rumeurs, je le disais tout à l'heure, sur l'hypothèse d'une intervention de dernière minute sur le sol iranien. On a l'impression que Trump se lance dans une véritable mission sabotage au Moyen-Orient.
Oui, opération sabotage, opération terre brûlée. C'est en effet une des bizarreries de la démocratie américaine, mais pendant les 2 mois et demi de l'interrègne, le président sortant dispose de tous ses pouvoirs. Alors pour ne parler que du Moyen-Orient, c'est pendant un tel interrègne, par exemple, que Ronald Reagan avait brisé le tabou en entamant le dialogue avec l'Organisation de libération de la Palestine, ou que Barack Obama avait laissé passer au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution déclarant illégale les colonies de peuplement israélienne. Alors, chez Donald Trump, c'est surtout faire comme si, montrer qu'il restera là. Il est le commandeur en chef des armées, et c'est aussi pour ça qu'il a évoqué cette possibilité, selon le New York Times, d'un bombardement d'un site nucléaire en Iran, avant de faire marche arrière, parce que, il ne faut pas l'oublier, Donald Trump a été l'un des rares présidents américains à ne pas lancer son pays dans une nouvelle guerre. Sur ce point, il est cohérent. C'est peut-être le seul. Il misait sur le repli au nom de l'Amérique d'abord, et elle ne devait intervenir que si ses intérêts vitaux étaient en jeu. Il avait promis de ramener les boys à la maison, c'est ce qu'il est en train de faire en Afghanistan, avec l'Irak, même si effectivement ce retrait précipité est très périlleux. Il n'a cessé de le clamer, je suis un président qui tient ses promesses, et on peut y voir là cette idée que pendant l'interrègne, ses priorités seront peut-être beaucoup de politique intérieure, et surtout qu'il va penser à, avant tout, des garanties judiciaires, d'autant qu'il pense éventuellement se représenter en 2024.
Alors, voilà, le décor est maintenant bien en place. Michel Duclos, Myriam Benrad, je voudrais d'abord peut-être qu'on commence par s'interroger sur l'intention de Donald Trump, parce que je dis opération sabotage, on a évidemment mis un point d'interrogation, parce qu'on pourrait se dire que il y a aussi du côté de chez Trump le désir, comme le disait Marc, de tenir les promesses qu'il avait prises au moment de sa campagne 2016 et donc ramener les boys à la maison. Est-ce que, en gros, il s'agit de rassembler les conditions d'un embrasement généralisé pour punir son successeur à la Maison Blanche, ou il ne fait que tenir ses promesses, Michel Duclos?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a la volonté d'adresser un message à sa base, et ça, c'est prendre date pour l'avenir, sans doute. Et il ne faut pas tout ramener à Trump. Il y a aussi des gens comme Pompeo qui préparent leur propre avenir et qui contribuent certainement à cette politique, notamment par son actuel déplacement en Israël. Donc il y a cette première idée qui est d'adresser un message à la base. Et puis la deuxième idée, c'est ce qu'a indiqué Marc Semo, c'est rendre les choses plus difficiles pour d'éventuels successeurs. Alors, est-ce que c'est sabotage? Est-ce que c'est tentative de putsch? C'est-à-dire, si ça rend les choses tellement difficiles qu'il y a un conflit qui éclate d'ici la mi-janvier, ça pourrait lui donner un prétexte supplémentaire pour rester au pouvoir.
Alors évidemment, on va regarder, puis il va falloir prendre les dossiers, si je puis dire, les uns après les autres, l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran, etc., etc. Myriam Benrad, d'abord, sur l'intention, est-ce qu'il vous semble, vous êtes d'accord avec Michel Duclos et Marc Semo, c'est les deux, mon général, c'est-à-dire à la fois tenir ses promesses pour éventuellement se placer pour 2024, pourquoi pas, ou c'est savonner la planche de son successeur?
Alors moi, sur cette question, je pense qu'il y a en effet, comme il a été souligné, une dose de communication politique, mais c'est caractéristique de toutes les administrations, hein. Chaque administration entend se distinguer de l'autre. En revanche, concernant l'Irak, l'Afghanistan, les théâtres d'intervention militaire majeure de la part des États-Unis au cours des 15-20 dernières années, je dirais qu'il y a quand même continuité depuis l'administration Obama. Il faut par exemple voir à quel point Trump, qui affirmait se distinguer d'Obama sur la question, a finalement poursuivi la même logique, qui est une logique de retrait, parce que ces guerres ont été, on le sait, des fiascos qui ont, dans certains cas, comme en Afghanistan, produit l'exact inverse de ce qu'elles avaient comme objectif. Il faut quand même rappeler que l'Afghanistan est en train de retomber aux mains des talibans actuellement, après, par ailleurs, un accord assez ironique, voire dramatique pour les Afghans, entre les États-Unis et cette même mouvance talibane. Donc l'Irak est au point mort sur le plan politique. Je ne suis pas sûre que les États-Unis, au-delà de leur aide militaire, et de toute façon aujourd'hui une quelconque marge de manœuvre au plan politique, et d'ailleurs ils ne la recherchent plus, ça c'est important de le souligner. Et enfin, peut-être dire un mot sur la Syrie. On a très bien vu sur la Syrie à quel point cette politique américaine a été erratique, mais avec toujours l'idée de retrait. Et en parlant de la base, il faut quand même dire que parmi la base électorale partisane de Trump, on a beaucoup de vétérans qui ont aussi voté parce qu'ils promettaient la fin de ces guerres sans fin et qui finalement ne répondent plus à aucun objectif politique clair.
On va parler évidemment de la Syrie, mais vous parliez de l'Afghanistan. Là, la situation est particulièrement difficile. C'est-à-dire que si on retire 2000 soldats comme on prévoit de le faire, c'est-à-dire ramener le contingent de 4500 à 2500, il y a quand même un véritable risque. On a déjà, là, les rapports qui nous viennent sur l'Afghanistan, c'est un niveau de violence qui est absolument inédit depuis l'intervention américaine de 2001, c'est le fait que s'il n'y avait pas de frappe aérienne américaine pour contenir les offensives des insurgés, eh bien d'abord, les forces de sécurité afghanes essuieraient des pertes beaucoup plus lourdes et que même certaines villes seraient tombées dans les mains de talibans, sachant qu'on est déjà dans une situation où ils ont repris une large part du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'en enlevant 2000 soldats, on est là, tout simplement, dans les semaines qui viennent, la chute du pouvoir de Kaboul et le retour des talibans? Myriam Benrad et ensuite Michel Duclos. Myriam Benrad.
Oui, enfin, de toute façon, c'est clairement ce qui va se passer, sachant par ailleurs que la présence américaine, en réalité, on débat beaucoup des chiffres, mais cette présence, elle n'a pas empêché cette vague de fond qui mine l'Afghanistan. Et c'est lié aussi à l'échec de la reconstruction, à l'échec des réformes, à un certain nombre de maux que connaît l'Afghanistan et d'autres pays, à la question de la corruption, évidemment. Ce qui va se passer, écoutez, c'est qu'on s'oriente vers une guerre civile, parce que il y a d'autres forces, évidemment, qui vont, là je parle des Afghans, hein, vouloir évidemment faire front contre cette reprise par les talibans, et on va vers un conflit civil dans lequel finalement les Américains... Est-ce que les Américains ont encore un rôle à jouer en Afghanistan? Parce que de la même manière qu'ils ont entendu, comme je l'ai dit, lutter contre les talibans. Ils ont quand même aussi largement, du fait de leur politique improvisée, qui n'avait pas d'objectif clair, qui était relativement violente à l'égard des civils aussi, ils ont semé tout ça aussi. Donc c'est compliqué aujourd'hui finalement de savoir est-ce que si les États-Unis maintiennent un contingent militaire, finalement ça va permettre de faire tampon.
De maintenir les choses.
C'est toujours le même débat.
Michel Duclos.
Peut-être qu'il faut introduire un paramètre supplémentaire. Quand ces questions sont discutées à la Maison Blanche ou avec les militaires, les militaires font sans doute valoir qu'il y a un certain seuil ou un certain plafond en dessous duquel, si vous descendez, vous mettez en jeu la sécurité de vos troupes. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que le retrait qui est annoncé pour prendre effet le 15 janvier, donc quelques jours avant la prise de fonction d'une nouvelle administration. On peut imaginer que là, les troupes américaines en Irak et en Afghanistan seront dans un état de très grande vulnérabilité. Et que la tentation pour les ennemis de l'Amérique sera d'exploiter cette vulnérabilité et de frapper. Et donc, on peut avoir une situation dans laquelle les premiers jours d'une nouvelle administration seraient marqués par des pertes américaines lourdes. Avec ce dilemme, retrait total, mais vraiment dans des conditions épouvantables. C'est pas du tout comme au Vietnam, où il y avait eu une période de deuil, un intervalle de deuil entre le retrait américain et la chute de Saïgon. Et donc ça, c'est le scénario le plus affreux. Autre scénario, la nouvelle administration est obligée de renvoyer des troupes. Et à ce moment-là, fait valoir qu'elle trahit la volonté générale de retrait qui est partagée, comme on l'a dit, par les démocrates comme par les républicains. Voilà le piège, si vous voulez.
Qui est en train de tendre Trump à Biden. Myriam Menrad, s'agissant de l'Irak, c'est un retrait peut-être plus modeste, puisque je crois que c'est 500 soldats qui devraient quitter l'Irak et il en resterait 2500. Il y a plusieurs questions là-dedans, Myriam Menrad. Je me tourne vers vous. Vous êtes une spécialiste de l'Irak. Il y a la question de savoir si ce retrait peut favoriser, accélérer un retour du califat. Ça, c'est le premier volet. Et puis, le deuxième, c'est... alors, je sais bien qu'évidemment, l'État irakien est loin d'exercer toute sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, mais malgré les difficultés, malgré les crises politiques à répétition, on a toujours un gouvernement à Bagdad. Est-ce qu'un départ précipité, accéléré des soldats américains pourrait provoquer tout simplement un effondrement de ce qu'il reste de l'État irakien ? Myriam Menrad.
C'est une question intéressante, puisque l'Irak, je pense, est l'illustration précisément des atermoiements successifs, ininterrompus, de cette stratégie américaine au Moyen-Orient. D'ailleurs, on parle pas de stratégie, mais je pose la question, y a-t-il encore une stratégie américaine au Moyen-Orient? Et c'est une question qu'on posait déjà sous l'administration Obama, et on la pose encore sous l'administration Trump. Là, je lisais un certain nombre d'articles qui justement tentent dans la presse américaine de dresser un bilan, et on a quand même des vues très très divergentes, mais cette même idée qu'il n'y a plus de stratégie. Alors, dans le cas de l'Irak, c'est particulièrement emblématique parce que effectivement, les Américains se sont redéployés en Irak en 2014, dans le contexte évidemment de la prise de Mossoul par les djihadistes et d'autres territoires. On était dans une situation d'urgence. Donc ils ont répondu par un retour sur le plan militaire, alors qu'ils s'étaient retirés, on le sait, fin 2011, suite aux promesses d'Obama déjà à l'époque. Mais alors, on a contenu, si vous voulez, cette menace djihadiste au prix de destruction intense, et ça ne s'est pas traduit par une reconstruction quelconque dans un certain nombre de territoires. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, parce que dans ces mêmes territoires, aujourd'hui, on a une résurgence de l'insurrection armée djihadiste. Par ailleurs, cette guerre, elle a finalement laissé de côté d'autres questions plus structurelles qui sont tout aussi fondamentales, les réformes, la fin de la corruption, la remise finalement en état d'un certain nombre d'institutions qui sont totalement dysfonctionnelles et qui participent aussi de ce délabrement. Et en fait, l'armée américaine fait un peu figure dans ce paysage conflictuel de grande violence, qui est par ailleurs très très morcelé au plan irakien, parce que les Irakiens eux-mêmes se livrent une guerre civile très féroce depuis des années. L'armée américaine fait un peu, si vous voulez, figure de d'acteur spectateur. On ne sait pas vraiment, au-delà, encore une fois, de l'assistance militaire, quel est son rôle. Elle n'en a plus sur le plan politique. Je crois qu'il faut dire les choses.
Mais donc, ça veut dire, Myriam Enrad, que si vous enlevez l'ensemble des soldats américains, il se passe rien, puisque ce sont des spectateurs, il ne se passe rien de différent. C'est pas une rupture fondamentale.
Alors, au niveau des logiques du conflit, je ne pense pas, parce qu'il y a des logiques, encore une fois, qui sont caractéristiques de la guerre civile irakienne, qui aujourd'hui échappent largement à la variable États-Unis. Mmh. Maintenant, il est évident que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, leur rôle, c'est essentiellement de faire tampon, en quelque sorte, d'éviter une escalade dramatique de la violence. Bah, comme celle
mais ce qui est essentiel, Myriam Enrad, ce qui est quand même essentiel.
Oui, c'est essentiel, si vous voulez, mais ça ne doit pas... comme je l'ai dit, ça ne peut pas occulter d'autres. Ça ne peut pas occulter les changements de fond qui doivent avoir lieu pour justement faire en sorte que cette continuation sans fin d'une présence militaire étrangère se substitue à, comme j'ai dit, aux réformes de l'État, au fait de lutter contre la corruption et de le faire de manière honnête, parce qu'il y a un problème au niveau des élites irakiennes. Enfin, c'est un long débat, donc je ne vais pas. Monopoliser la parole, mais il faut vraiment bien prendre en compte qu'on ne peut pas substituer le militaire au politique.
C'est entendu. Marc Sémot et puis Michel Duclos. Marc Sémot.
Alors justement, à propos de l'Irak, ce départ de 500 hommes était annoncé. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas une surprise. Alors est-ce que le piège n'est-il pas d'autant plus redoutable pour Biden, comme le soulignait Michel Duclos, avec le risque qu'il ait à renvoyer des hommes après, dans la mesure où Joe Biden, si je me souviens bien, avait été contre le surge, le renforcement, le sursaut qui visait qu'avait lancé Obama pour renforcer le dispositif en Irak pour éviter justement une situation qui était en train de se dégrader. Et est-ce que c'est pas là pour lui un piège d'autant plus redoutable politiquement ?
Michel Duclos.
Oui, je le pense. Et puis, là aussi, il y a une autre dimension, c'est la dimension iranienne. Un retrait des troupes américaines en Irak, c'est tout simplement une victoire pour l'Iran. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est ce que veulent les Américains? Je ne sais pas. Et là, le dilemme, c'est que ces soldats américains en Irak, ce sont en réalité des cibles pour les groupes militants affiliés à l'Iran. Et donc, effectivement, elles ne sont pas d'une unité considérable. Elles comportent un risque grave. Et en même temps, si on les retire, on fait un cadeau gratuit à l'Iran.
Mais alors justement, sur l'Iran, Michel Duclos, parce que lundi, le New York Times a quand même publié un article révélant le fait que Donald Trump aurait consulté ses conseillers sur la possibilité d'une frappe ciblée sur un site iranien d'enrichissement nucléaire, en l'occurrence le site de Natanz. Visiblement, ses conseillers l'en auraient dissuadé. Quand je dis ses conseillers, c'est en l'occurrence le vice-président Mike Pence et puis le secrétaire d'État Mike Pompeo et le chef d'état-major Mark Milley. Il a entendu pour le moment les réticences de cet establishment sécuritaire, mais est-ce qu'il pourrait décider d'aller outre et de procéder quand même à des frappes ?
Bon, on ne sait jamais, mais je n'y crois pas beaucoup.
Vous n'y croyez pas ?
Pour deux raisons. La première, c'est que, justement, comme il a avant tout le souci de sa base, il sait que lancer un conflit serait très impopulaire. Il faudrait vraiment que les Iraniens commettent une très grave erreur. Et que notamment ils s'en prennent à Israël, c'est ça qui pourrait justifier une intervention américaine.
Oui, mais Michel Duclos, il pourrait aussi miser sur le fait qu'a priori, Téhéran ne réagirait pas, considérant que de toute façon un nouveau président, une nouvelle administration est sur le point d'advenir et qu'il n'est pas utile de lancer un conflit avec un président qui s'en va. C'est-à-dire il y a aussi tout simplement ce calcul-là qui peut être fait du côté de Trump.
Ce que les conseillers de Trump lui ont dit, c'est qu'on ne peut pas prendre ce risque, que tabler sur une absence de réaction iranienne, c'est vraiment trop. Puis la deuxième raison, c'est que vis-à-vis de l'Iran, il a une autre approche qui est de multiplier les sanctions sur un certain nombre d'entités iraniennes elles-mêmes et sur les alliés de l'Iran dans la région, comme le Hezbollah et les Houthis. Là, on retrouve le piège, c'est-à-dire que en multipliant les sanctions, il rend plus difficile pour une administration Biden de jouer, puisque ou bien l'administration Biden en question annule les nouvelles sanctions qui seraient édictées et elle apparaît faible, ou bien les gardes, et à ce moment-là, c'est plus difficile pour elles de négocier avec l'Iran et de relancer la négociation sur l'accord nucléaire.
Myriam Benrad, justement, sur la question de l'Iran, parce qu'effectivement, il y a eu de nouvelles, un nouveau train de sanctions à l'encontre de Téhéran mercredi. Est-ce qu'on peut considérer que ce nouveau train de sanctions, nouveau train de mesures, c'est le signe que Donald Trump a pris acte et qu'il n'allait pas, justement, intervenir et frapper ce site, comme ça a été évoqué? Et jusqu'où, comme Michel Duclos le dit, cette pression maximale qu'il maintient à l'égard de l'Iran avec ce nouveau train de sanctions peut piéger Joe Biden pour sa politique iranienne de demain?
Bon, alors, je pense qu'il faut remettre en contexte aussi au plan historique. L'Iran est un adversaire des États-Unis depuis bien plus longtemps que la question, enfin, c'est l'accord qui avait été passé sur le nucléaire, qui ne faisait pas d'ailleurs des États-Unis un allié de l'Iran. Attention, hein, il faut quand même bien prendre en compte le fait que cet assouplissement du côté d'Obama ne signifie absolument pas que les États-Unis faisaient particulièrement confiance à l'Iran. Alors évidemment, Trump a tout remis en cause. Donc je pense que, pour ma part, que Biden va avoir du mal à se détacher de cette posture, de cette politique, de cet héritage, si tant est qu'il souhaite d'ailleurs s'en dissocier, parce que, comme je l'ai dit, il y a quand même une continuité au niveau américain concernant l'Iran et concernant la menace que l'Iran représente à leurs yeux sur le plan régional.
Mais Joe Biden ne va pas lever toutes les sanctions à l'égard de Téhéran du jour au lendemain, c'est ça que vous voulez dire?
Non, je ne pense pas, puis parce qu'aujourd'hui la stratégie américaine est une stratégie d'endiguement, d'une puissance qui par ailleurs s'est imposée sur tous les terrains et qui de fait est dans une logique hégémonique. Il y a un certain nombre d'autres contentieux entre les États-Unis, les Iraniens et les Européens, parce que bon, l'Europe évidemment aussi s'est durcie par rapport à l'Iran sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, puis évidemment la pression aussi des Saoudiens et de ce point de vue la stratégie, enfin l'alliance avec les Américains n'est absolument pas remise en cause, quand bien même Biden annonce qu'il va prendre un tournant, enfin tout ça, ça reste quand même de la communication politique. Donc je pense qu'on sera peut-être dans un entre-deux. Biden va peut-être renouer avec une partie de l'héritage Obama et puis maintenir quand même une position assez ferme qu'il héritera pour le coup de Trump, au-delà encore une fois de ses passes d'armes qui sont les leurs.
On va venir justement à l'Arabie Saoudite, comme vous l'évoquiez. Marc Semo et puis Michel Duclos. Marc Semo.
Juste un petit point sur l'Iran, ce qui est quand même très clair, c'est la disponibilité, en l'occurrence montrée par Zarif, alors ça a toujours été son rôle, c'était l'homme du dialogue, le ministre des Affaires étrangères iranien, par rapport à la reprise et le retour de l'Iran à ses obligations, à condition que les Américains lèvent les sanctions. Donc, quelque chose là-dessus, même si aujourd'hui, effectivement, comme le disait Myriam, les Européens ont beaucoup durci le ton et que même l'administration américaine a vu les limites de l'accord sur le nucléaire tel qu'il était, il y a quand même une réelle possibilité de réenclencher quelque chose, non ?
Michel Duclos, vous êtes d'accord ? Il y a une possibilité de réenclencher quelque chose. Faisons l'hypothèse, même si Myriam Benrad nous disait que c'est peu probable, mais faisons l'hypothèse que Biden, finalement, lève l'ensemble des sanctions à l'égard de Téhéran. Faisons l'hypothèse qu'il est favorable à un retour des négociations, voire même favorable à la signature d'un nouvel accord avec Téhéran. Ce qui est loin d'être sûr, mais enfin bon, faisons cette hypothèse. Est-ce qu'il vous semble, comme le dit Marc Semo, que Téhéran serait enclin à discuter ou l'échec de l'accord de 2015 a servi de leçon à tout le monde, a tellement renforcé aussi le camp des durs, je mets des guillemets, mais c'est comme ça qu'on le qualifie souvent, et totalement exclu cette possibilité. Michel Duclos.
Vous savez, il y a d'infinies discussions entre experts, auxquelles d'ailleurs je participe moi-même. Parfois, il faut revenir à des données simples. Même le plus dur des durs des Iraniens voit l'état dans lequel est son pays. Donc s'il y a la moindre chance de lever des sanctions et donc de récupérer un peu d'oxygène économique, je pense que cette chance sera saisie. Quant à Biden, il a affiché lui-même son souhait de revenir dans l'accord nucléaire, le JCPOA, pas à n'importe quelle condition, naturellement. Et comme les Iraniens, de leur côté, ne sont pas du genre à revenir à une position plus ouverte sans non plus négocier, il va y avoir une phase où l'ingénierie diplomatique devra être à son sommet, si vous voulez. Mmh. Il faudra beaucoup d'habileté de part et d'autre, et probablement ce serait très utile que les Européens préparent le terrain. Mmh. Donc ce sera très difficile, il y a beaucoup de raisons qui vont dans le sens d'obstacles nombreux, y compris le fait d'ailleurs que pour les Américains, c'est pas aussi prioritaire qu'avant. Ils ont tellement d'autres soucis aujourd'hui que ils vont pas s'y consacrer à fond et exclusivement comme avait pu le faire Obama. Mmh. Mais tout ceci étant dit, malgré tout, la logique, c'est bien qu'il y ait une tentative forte de rétablir au moins ce qui avait été acquis avec le JCPOA. Mmh.
Myriam Benrad, on a titré cette émission Opération Sabotage, mais après tout, Trump n'a pas fait que de mauvaises choses du côté du Moyen-Orient. En tout cas, il se targue d'être parvenu à obtenir un accord de normalisation entre Israël d'un côté et les Émirats Arabes Unis de l'autre, et Bahreïn également. Et c'est vrai qu'il faut lui rendre cela, dans ce sens où il a réussi à dépasser cette position qui faisait quand même consensus depuis longtemps, depuis les années 2000, dans le monde arabe, selon lequel la normalisation avec Israël n'était possible sans le règlement préalable de la question palestinienne. Est-ce que on pourrait imaginer, alors là, c'est plus l'opération sabotage, mais c'est l'opération normalisation des relations avec Israël, est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres pays, d'ici la fin du mandat de Trump, suivent la voie? Alors, il y a beaucoup de questions autour de la possibilité d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Beaucoup d'observateurs nous disent que c'est très très peu probable, mais après tout, pourquoi pas, Myriam Benrad?
Tout dépend de ce qu'on entend par normalisation. L'Arabie Saoudite a quand même, entretient des liens, même officieux, avec Israël, puisqu'il y a de toute façon convergence de vues sur un certain nombre de questions, au premier plan desquelles, comme je l'ai dit, l'endiguement de l'Iran. Mmh. Convergence de vues aussi aujourd'hui, ou accord sur la manière de régler un certain nombre de crises, notamment la Syrie. On peut parler aussi du Yémen, enfin bref, si Israël est moins, évidemment, moins concerné par cette crise. Mais c'est intéressant cette question. Est-ce que finalement c'est un échec, une réussite? C'est toujours un peu la même qu'on pose lors des alternances politiques aux États-Unis. Alors, concernant très spécifiquement la question israélo-palestinienne, israélo-arabe, puisqu'on parle effectivement. De ce qui est survenu entre Israël et certains pays du Golfe, je pense qu'il faut quand même modérer les choses parce qu'il y a eu une levée de bouclier qui a été très claire. On n'a pas du tout des opinions publiques qui suivent sur ces questions. Il y a quand même beaucoup d'observateurs qui considèrent aussi que le plan Trump-Kouchner sur ce nouveau plan de paix, c'est quand même largement aussi de la poudre aux yeux, qui ne change pas les logiques sur le terrain, alors qui ne sont pas particulièrement explosive en ce moment, mais qui pourrait l'être. Donc j'aurais tendance à prendre des pincettes quant à qualifier ce qu'il a fait de réussite, parce que ça ne s'est pas traduit, en tout cas pour le moment sur le terrain, par une quelconque amélioration de la situation, qu'elle soit sécuritaire ou dans les relations entre Israéliens et Palestiniens, et plus largement peuple arabe.
Michel Duclos, sur Israël, on voit en ce moment le chef de la diplomatie américaine dans cette grande tournée d'adieu, si je puis dire, à moins que ce ne soit une tournée de préparation pour une éventuelle candidature pour 2024, on verra. Il est passé en Europe, il est allé au Moyen-Orient, il s'est rendu en Israël, il a visité une colonie israélienne de Cisjordanie pour bien montrer son soutien au processus de colonisation. C'est la première fois pour un chef de la diplomatie américaine. On sait que ce mandat de Trump a été marqué par un rapprochement. Non, il y a évidemment toujours des liens très fort, mais c'est vrai que les relations entre Netanyahou et Obama n'étaient pas très bonnes. On a eu évidemment cette décision concernant le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, ce qui n'est pas là non plus une rupture fondamentale, parce qu'en réalité il y a un consensus sur le sujet au niveau du Congrès, mais en revanche on peut se demander si Trump n'aurait pas eu intérêt à demander une contrepartie à l'État hébreu. Mais la question est la suivante, Michel Duclos, est-ce qu'il y a encore là une marge de manœuvre pour encore affirmer davantage ce soutien indéfectible envers Israël, où tout a été fait et rien de plus n'est à attendre d'ici son départ, Michel Duclos?
Oui, c'est difficile d'imaginer que Trump aille encore plus loin que ce que vient de faire Pompeo. qui devrait aussi aller apparemment sur le Golan, et qui là tend aussi un piège aux Européens, incidemment, puisque vous avez vu qu'ils menacent de mesures au nom de l'antisémitisme les pays qui exigeraient que les produits venant des territoires occupés portent le label territoire occupé et pas le label Israël, ce qui est exactement le cas de la France. Et donc, c'est le genre de choses qu'ils peuvent encore faire dans les semaines qui viennent, mais c'est pas quand même considérable. En contrepartie, il faut voir que dans la liste des mesures qu'on mentionne et qui passent relativement inaperçues, il y a le contrat de vente d'armes aux Émiratis, qui est considérable et qui notamment se traduit par la vente de 50 F-35, qui, comme vous le savez, est un avion de combat hyper perfectionné, que jusqu'ici les Américains n'avaient pas transféré à d'autres pays qu'Israël, parce que Israël y mettait son veto, et en considérant que ça entraînerait un déséquilibre profond des rapports de force dans la région. Et les démocrates eux-mêmes, qui pourtant souhaitent faire de la surenchère dans le soutien à Israël, ont considéré que c'est une décision qui méritait d'être considérée avec attention. Donc, ils sont pas enthousiastes. Et là, c'est un des cas où l'administration Trump force la main à Biden. Et peut-être, c'est pas complètement impossible. Ne répond pas complètement aux souhaits de Netanyahou. Ou en tous les cas, c'est à la suite d'une longue négociation avec Netanyahou.
Michel Duclos, et puis ensuite je poserai aussi la question à Myriam Benrad. La Syrie, est-ce que Donald Trump peut encore prendre des décisions qui aggraveraient encore la situation, ou en réalité, d'abord, on ne peut pas faire pire? On est arrivé vraiment à la situation la plus terrible qu'on pourrait imaginer. Et peut-être que par ailleurs, on peut s'interroger aussi sur ce qu'il reste de levier américain dans ce conflit. Au fond, on se demande si les États-Unis ont encore un quelconque poids dans ce conflit syrien. Michel Duclos.
Oui, il peut faire pire. Il peut retirer les troupes qui restent, les troupes américaines qui restent dans le nord-est syrien. Et vous avez vu cette scène absolument extraordinaire pour des diplomates classiques. Jim Jeffrey, le représentant spécial de l'administration Trump pour la Syrie, a remis sa démission il y a quelques jours. Et dans une conférence de presse, il a déclaré « Oui, nous avons menti. Trump voulait retirer complètement les troupes. » Ou n'en laisser qu'un tout petit nombre, et en fait, on en a laissé beaucoup plus que ce qu'il voulait. Et pourquoi est-ce que Jeffrey dit ça, c'est un peu étrange, mais enfin, le fait est que c'est la réalité. Or, au même moment, apparemment, l'administration Trump continue à négocier avec le régime de Damas la libération de prisonniers, qui sont des otages, américain. Donc on peut très bien imaginer que dans les derniers jours de son administration, il obtienne cette libération des otages américains et qu'en échange, il décide le retrait total, cette fois pour de bon, des forces américaines restant dans le nord-est syrien. Et ça serait bien vis-à-vis de sa base et même de l'opinion publique américaine de son point de vue. Et ça retirerait aux Occidentaux le dernier levier qu'ils possèdent sur un éventuel règlement du drame syrien.
Myriam Benrad, sur cette situation syrienne.
Si on l'appréhende au prisme de la politique américaine, il n'y a jamais eu de stratégie américaine véritable en Syrie. Ou alors une stratégie qui a été complètement, comme je l'ai dit, erratique. On l'a vu au moment où Trump a décidé, face à la Turquie et aux pressions turques, de retirer dans la précipitation ses troupes en lâchant de fait ses alliés kurdes. Alors que ces mêmes alliés kurdes sont quand même ceux qui avaient permis la réussite des opérations militaires contre l'État islamique. Par rapport au régime syrien, en fait, l'administration Trump n'a pas non plus forcément eu de politique claire. Je pense que Trump a pris acte du fait que le régime reprenait la main, et puis finalement ça rentrait totalement en adéquation avec sa volonté de retirer ses troupes. Donc il y a un grand cynisme hein, quand même chez Trump, il faut le dire. C'est une politique, c'est une forme de réelle politique. Un peu, je dirais aussi, enfin qui fait écho à ce qu'on a pu connaître dans le passé, sans grande considération pour les droits de l'homme, sans considération pour les peuples. Tout cela, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais un point qui est quand même absent d'à peu près tous les dossiers.
Et alors précisément sur ce point-là, Myriam Benrad, et ce sera mon dernier point, on arrive au terme de cette émission, mais est-ce qu'il y a, jusqu'où est-ce qu'on peut attendre du changement de la part de Biden? Vous venez de signer un ouvrage sur la géopolitique de la colère, de la mondialisation heureuse au grand courroux, aux éditions du Cavalier Bleu, et vous y retracez l'histoire justement de cette émotion, de ses ressorts, les ressorts de son surgissement depuis le début de ce 21e siècle. D'une certaine manière, Trump a été le chef de file de cette colère. En tout cas, pour la première fois, on a eu un président américain qui portait la voix de ceux qui se considèrent aux États-Unis comme les perdants de la mondialisation, alors que les États-Unis ont quand même été les grands gagnants et le principal moteur pendant tout le XXe siècle. Il a ouvert une brèche, d'une certaine manière, pour tout un tas de dirigeants qui, à leur tour, en fonction des contextes nationaux évidemment, se sont appuyés sur la colère de leurs concitoyens pour se faire élire, de Bolsonaro au Brésil jusqu'à Salvini en Italie. On va maintenant avoir Biden. Est-ce qu'après cette géopolitique de la colère, on pourra avoir une géopolitique de la réconciliation grâce à Biden? Jusqu'où est-ce qu'il pourrait être l'instigateur d'un apaisement global, Myriam Benrad, en quelques mots?
Ça m'étonnerait dans la mesure où Trump n'a été que le symptôme d'une colère préexistante. Donc il a largement capitalisé sur une colère, une rancœur américaine qui était présente sur un certain nombre de dossiers. Donc il en a fait un style politique, un instrument de conquête du pouvoir. Il le maintient d'ailleurs parce qu'il est tout à fait possible de le revoir réapparaître dans 4 ans. D'ailleurs, je pense que ce que vous mentionnez comme politique de sabotage, ce n'est qu'une manière de se repositionner pour dans 4 ans. Mmh. Mais quand même, sur la question de la colère, ce qui est intéressant, c'est que son style, il a parlé aux dirigeants, aux populations de la région. Hein. Paradoxalement, Trump est quelqu'un qui plaisait dans le style, qui avait ce côté fougueux, rageux, qui plaisait à un certain nombre d'acteurs dans les pays, dans le monde arabo-musulman, qui se sentaient plus à l'aise d'ailleurs parce que c'est leur style aussi. Donc c'est intéressant aussi de mettre en rapport, de ce point de vue, la manière dont ce style, cette colère qu'il a finalement transformée en empreinte, a aussi pu être une des causes pour lesquelles certains considèrent que finalement c'est un succès Trump, y compris sur le Moyen-Orient. America, America, I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. Merci beaucoup à tous nos invités. Michel Duclos, un grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment de La longue nuit syrienne aux éditions de l'Observatoire, mais que vous avez dirigé également l'ouvrage collectif Le monde des nouveaux autoritaires. Myriam Benrad, grand merci également. Géopolitique de la colère à retrouver aux éditions du Cavalier Bleu. Un grand merci à Marc Semo aussi, notre partenaire du Monde. On a pu rétablir et on en est très heureux notre partenariat avec Le Monde, cher Marc. On reprend les affaires dès vendredi prochain. Dans un très court instant, c'est Lucille Comeau et la critique.